c'est parti pour le dernier, donc dernier volet de ce petit cycle sur christianisme et ésotérisme. Et donc pour la dernière partie, ce que je vous propose, c'est de réfléchir, on l'a déjà un petit peu fait dans les topos précédents, mais d'essayer de réfléchir au regard qu'on peut poser en tant que chrétien sur toutes ces réalités. Donc j'ai parlé de tous ces courants ésotériques, donc des éléments de discernement et de réflexion. Et puis des éléments aussi de réflexion sur les perspectives d'évangélisation, puisque nous avons à annoncer l'évangile, et on pense toujours à l'évangélisation des musulmans ou à l'évangélisation des athées, mais là, dans les milieux qui adhèrent à l'ésotérisme, ce sont des personnes qui sont pour une bonne partie en dehors de l'Église, ou pour une autre partie qui ont un pied dedans, un pied dehors, et qui ne sont pas très au clair avec leur foi. Et du coup, on peut estimer qu'on a un rôle en tant que chrétien, à notre modeste niveau, mais qu'on a un rôle dans l'évangélisation de ces personnes et dans l'annonce qu'on doit leur faire de l'évangile. Alors, pour trois petites parties. Première partie, quel regard poser? Je vais vous proposer une espèce de catégorisation qu'a élaboré un père dominicain de la province de France qui a travaillé sur ces sujets, le père Rousse-Lacordaire, qui a écrit un livre qui s'appelle justement « Ésotérisme et christianisme ». C'est une thèse de doctorat. Alors, ça vous intéresse, j'en ai fait une présentation, je ne l'ai pas dit les autres topos, mais je l'ai dit à certains d'entre vous, j'ai une chaîne YouTube, en fait, pour adosser à ma thèse, sur laquelle je présente des livres dont je me sers pour la thèse. Il suffit de taper Adrien Bourg sur Google et vous tombez sur... c'est dans les premiers résultats, quoi. Et le bouquin du père Rousse-Lacordaire, Ésotérisme et christianisme, j'en ai fait un compte-rendu d'à peu près trois quarts d'heure, donc il y a pas mal d'éléments dessus, si vous voulez en savoir plus. Et donc la catégorisation qu'il propose dans le regard que peut poser le théologien chrétien, puisque lui il réfléchit en tant que théologien, mais ça s'applique aussi aux chrétiens lambda, il propose trois types de regards à poser sur l'ésotérisme. Ça s'applique aussi aux autres religions éventuellement, mais là, chez lui, c'est plus ciblé sur l'ésotérisme. Donc, il va dire, premier regard, le regard du pluralisme. On va dire, la foi chrétienne, c'est une foi parmi d'autres, l'ésotérisme, c'est une croyance parmi d'autres. Bon, on se met d'accord sur le fait qu'il peut y avoir plusieurs chemins vers la vérité, donc chacun sa voie, etc. Alors ça, justement, on a vu que c'était un type de regard sur la pluralité des religions qui venait du monde de l'ésotérisme, et qu'en tant que chrétien, on ne pouvait pas adhérer à ça. Déjà, ça posait un problème sur si on a deux vérités coexistantes et qui disent deux choses contradictoires. Bon, à un moment donné, il faut bien choisir et dire c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est faux. On peut pas... Jésus est le Fils de Dieu ou Jésus n'est pas le Fils de Dieu. C'est aussi simple que ça. L'Eucharistie, c'est le corps et le sang du Christ réellement présents, ou l'Eucharistie, c'est juste du pain et du vin présents sur une table. Ça ne peut pas être les deux vérités en même temps. Donc cette approche de la pluralité des vérités, dans l'abstrait, c'est plutôt réconfortant parce qu'on a l'impression que ça réconcilie tout le monde, en fait, et que ça nous permet à tous de vivre en paix sur cette belle planète. Dans la réalité, quand on commence à regarder de près ce en quoi on croit vraiment, ce en quoi croient vraiment les autres, etc., on se rend compte qu'il faut se faire à l'idée qu'il y a un conflit entre des affirmations de la vérité contradictoires et qu'il y a un travail de notre part de réflexion, de discernement et de choix pour savoir en quoi on croit, en quoi on place sa confiance, en quoi on place sa foi. Et c'est pas la même chose de suivre, de s'inscrire dans l'Église catholique et de suivre l'enseignement du pape et des évêques, et d'aller s'inscrire dans un groupe Gurdjieff et de suivre les enseignements du groupe Gurdjieff. C'est deux choses différentes. Donc le regard pluraliste, très plaisant pour notre époque qui baigne un peu dans le relativisme et dans justement la prétention à la coexistence de plusieurs vérités, mais pas très satisfaisant et... à mon avis, à mettre à la poubelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement d'où vient ce regard, et c'est aussi pour ça que je vous ai retracé un petit peu l'histoire de l'ésotérisme et l'histoire de la franc-maçonnerie, qui, à mon avis, a joué un grand rôle dans l'expansion à l'heure actuelle de ce regard relativiste et de ce regard soi-disant tolérant, mais en réalité qui est assez délétère sur la vie religieuse et spirituelle réelle des gens. Après, deuxième approche, tentante quand on est catholique, pratiquant, etc., c'est l'exclusivisme. C'est-à-dire, hors de l'Église, point de salut. Tous ceux qui ne sont pas catholiques, pratiquants, bien comme il faut, fermes, etc., ils sont dans l'erreur, ils sont dans le péché. Donc, tant pis pour eux, d'une certaine manière. Et il n'y a rien à garder de ce qu'ils pratiquent, il n'y a rien à garder dans ce qu'ils professent. Alors, il peut y avoir une part de vérité là-dedans, c'est-à-dire que la vérité est une, et une fois qu'on a la chance et la charge en même temps d'avoir reçu l'annonce de cette vérité et d'y avoir adhéré, il faut la tenir fermement. Donc il y a une part de vérité dans ce regard-là, qui est la rectitude dans les exigences du Christ et la rectitude dans la vérité qu'on a reçue de nos parents. Enfin, de nos parents, je dis nos parents au sens large, hein, de nos aïeux, et que nous avons à transmettre, et donc il faut une certaine fermeté dans le fait de tenir cette vérité. Mais par ailleurs, est-ce que le regard est satisfaisant de dire, voilà, j'ai franchi un pas, je suis dans l'Église, et tout ce qui est en dehors de l'Église, tout ce qui n'appartient pas nominalement à la foi catholique, est totalement faux, totalement dans l'erreur, etc. Ça paraît tout de suite un peu faible. Ne serait-ce que par rapport aux chrétiens qui ne sont pas catholiques, est-ce qu'on dit que la foi des orthodoxes ou la foi des protestants n'a strictement aucune valeur? La foi des orthodoxes, on a énormément de points communs avec eux, donc il y a un schisme historique avec eux, mais il y a des points communs quand même, ils ont les sacrements, ils ont des évêques qui ont une succession légitime, ils ont enfin énormément de choses, toute une tradition en commun avec les catholiques. Les protestants, ils ont le baptême chrétien. Et on sait avec Augustin que le baptême chrétien, c'est un seul et même baptême. Donc les protestants sont baptisés, quand ils baptisent quelqu'un, il est baptisé chrétien. Et par ailleurs, ils ont une vraie vie de prière, une vraie vie de grâce, ils ont les Écritures en commun avec nous. Donc c'est compliqué d'envoyer tout à la poubelle. Et alors, dès qu'on va poser des regards sur les réalités extérieures à l'histoire du christianisme, ça va être un petit peu plus compliqué parce que. Ce sont des choses qui se sont développées avec leur logique propre. L'hindouisme ou le bouddhisme sont deux ères religieuses qui ont eu leur propre vie indépendamment de la révélation biblique et qui rentrent à un moment donné de l'histoire en relation avec le monde biblique. Et donc, le regard à poser dessus, est-ce qu'il faut vraiment demander aux personnes qui ont adhéré à ces religions de tout mettre à la poubelle et d'adhérer à la foi chrétienne, donc de passer de l'un à l'autre, ou est-ce qu'il n'y a pas un regard à poser de discernement sur éventuellement les parts de vérité qu'il pourrait y avoir dans ces religions? Donc, discernement, un exclusivisme pur et dur paraît un peu faible pour arriver à penser ces relations-là. Après, ça devient plus compliqué avec les formes religieuses dont je vous ai parlé, puisque comme je me suis employé à vous l'expliquer hier et avant-hier, il y a une part de ces courants qui peut provenir des religions extérieures. La méditation transcendantale, c'est très clairement inspiré de la tradition bouddhiste, hindouiste. La théorie de la réincarnation dans le spiritisme, il y a une partie qui vient d'une espèce de reformulation de la réincarnation bouddhiste, hindoue, etc. Mais par ailleurs, il y a une immense partie de ces courants religieux, de ces courants ésotériques, qui vient de la foi chrétienne. Et ça, c'est là où l'approche historique est précieuse, c'est on peut dérouler le fil et voir comment tous ces mouvements ésotériques se sont déployés à partir d'un mouvement hérétique chrétien, en fait. Et donc, du coup, ça conditionne un peu le regard à poser dessus, puisque c'est pas tout à fait la même approche quand c'est un courant détaché de l'Église. Et quand c'est un courant qui a vécu sa vie de façon totalement indépendante par rapport à l'Église. Alors, est-ce que pour autant il faut. C'est un peu les deux pôles du regard qu'on peut adopter. Il y a l'exclusivisme pur et dur en disant bon, il faut tout mettre à la poubelle et demander aux gens de faire pénitence et de renoncer à tout ce en quoi ils ont cru et de rentrer dans l'Église en abandonnant tout ce qu'ils ont vécu avant. Et l'autre regard qui paraît plus sympathique à notre époque, plus tolérant, qui est de dire, bon, on peut accepter les gens même s'ils ne sont pas dans les clous au niveau de la doctrine, que les pratiques peuvent être un peu bizarres, etc. S'ils disent qu'ils sont chrétiens, il suffit qu'ils disent qu'ils soient chrétiens pour accepter tout ce qu'ils font. Et puis comme le discours qu'ils tiennent est gentil, bienveillant, etc. Après tout, pourquoi se montrer rigide, etc. Alors, j'ai pas de réponse toute faite à vous proposer. Je pense que la juste position à adopter dans le regard à poser sur ces réalités, c'est un regard de discernement sur ce qu'il y a de bon, ce qu'il peut y avoir de bon dedans et de compatible avec la foi catholique, ce qui implique, ce que rappelait le document Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, de soi-même bien connaître sa propre religion, parce qu'on peut être chrétien comme ça de tradition et pas avoir vraiment pris le temps d'approfondir ou pas être en capacité de vraiment formuler ce en quoi on croit. C'est quand même assez précieux d'avoir pris le temps et la peine d'approfondir sa foi et d'être capable de la formuler en des termes satisfaisants, capable de répondre à des personnes qui poseraient des questions, qui professeraient des choses différentes. Alors, Je vous propose un petit point sur l'évangélisation en général, appuyé sur les textes du Concile Vatican II. Alors je vous ai mis ces textes dans le recueil. Ça me semblait, même si ce n'est pas directement lié à l'ésotérisme, ça me semblait une bonne idée de... Alors je suis désolé, il y a des personnes qui sont arrivées là et qui n'ont pas les... On n'avait plus de... Bon, je vais les lire de toute façon, donc vous aurez le... Alors, j'ai fait une espèce de petite synthèse. J'ai commencé par un texte qui n'est pas de Vatican II, là, qui pour le coup vient du Nouveau Testament. C'est un extrait du discours de, enfin, des Actes des Apôtres. C'est le discours de Paul devant l'Aréopage d'Athènes. Il a été dans les lectures d'avant-avant-hier, je crois, ou enfin, on l'a lu récemment à la messe. Et je le prends parce que pour moi, c'est un modèle de. Une sorte d'archétype de la bonne évangélisation, en fait. On va voir comment il s'y prend. On va voir aussi la fin qui est un peu rassurante pour nous, parce qu'on peut être le meilleur prédicateur du monde, ça ne marche pas à tous les coups. Alors, je lis le texte. Alors, Paul est à Athènes, et il prêche l'Évangile, et ça commence à susciter l'inquiétude des autorités, donc du coup, on le conduit devant l'Aréopage, l'Assemblée des sages, des intellectuels, des personnes un petit peu importantes d'Athènes, pour le faire s'expliquer. Donc ils le prirent alors avec eux et le menèrent devant l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car ce sont d'étranges propos que tu nous fais entendre. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui résidaient parmi eux, n'avaient d'autre passe-temps que de dire ou d'écouter les dernières nouveautés. Debout au milieu de... Alors c'est un peu la situation de notre époque religieuse en fait, c'est-à-dire qu'il y a une foultitude de doctrines et de croyances, et dans les milieux ésotériques, il y a un peu ce côté-là d'essayer de piocher un petit peu partout. Alors, debout au milieu de l'Aréopage, Paul dit alors « Athéniens, à tous égards, vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous, souffle, vie, souffle et toute chose. Si d'un principe unique, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre, s'il a fixé des temps déterminés et les limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre, si possible, comme à tâtons, et la trouver. Aussi bien, n'est-elle pas loin de chacun de nous? C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être, ainsi d'ailleurs l'ont dit certains des vôtres, car nous sommes aussi de sa race. Que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, travaillée par l'art et le génie de l'homme. Or voici que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. À ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes, cependant, s'attachèrent à lui et embrassèrent la foi. Pardon. Alors, deux, trois petits commentaires sur la manière de faire de Paul. On voit qu'il s'appuie sur la croyance religieuse des gens au milieu de qui il se trouve. Il ne commence pas par leur dire « ce que vous croyez est faux et je ne veux pas en entendre parler ». Il leur dit « j'ai pris le temps de me balader dans votre ville, de voir ce en quoi vous croyez ». Et déjà, je vois, premier constat, que vous êtes des personnes religieuses, c'est-à-dire susceptibles de vous intéresser aux questions dont je vais vous parler. Et c'est précisément le cas des personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme New Age, c'est des personnes qui ont une sensibilité religieuse et qui sont prêtes à entendre parler des choses de la foi. J'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu », eh bien ce que vous adorez sans le connaître, je viens moi vous l'annoncer. Paul ne se met pas dans une situation de concurrence avec les religions grec, il se met dans la position de quelqu'un qui va leur révéler quelque chose qu'ils ignorent, donc leur donner plus que ce qu'ils ont déjà. Et ça, je pense que c'est une attitude intelligente à avoir en tant que catholique, c'est-à-dire qu'il faut être cohérent. Si on a la prétention, entre guillemets, d'avoir reçu la vérité tout entière et d'être capable de l'annoncer, si on se place dans une relation de concurrence, comme s'il s'agissait d'une guerre politique et d'un conflit de courant politique, c'est pas crédible d'une certaine manière, puisque les personnes se disent, bon, et voilà, toi, t'as ta vérité, moi, j'ai la mienne, et elles se heurtent, et le plus fort gagnera. Mais bon, là, on est en train d'annoncer quelque chose qui récapitule tout ce qui a été fait, religieusement parlant, dans l'histoire de l'humanité. Donc il faut arriver à annoncer les choses de telle manière que la personne voit qu'on lui propose plus que ce qu'il a connu. Et ce qu'on lui propose, c'est le Dieu Trinité qui l'aime et qui veut lui dire qu'il aime et qui veut l'unir à lui. Donc c'est quand même pas... c'est pas rien. Ensuite, bon, là, il faudrait tout détailler pour montrer ce que je vais vous dire, mais en gros, Paul s'appuie sur le vocabulaire religieux des conceptions grecques pour leur parler de la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'il a fait cet effort de voir quel langage religieux ils parlaient, eux, ce qui n'est pas toujours évident, parce que justement, quand on a quelque chose d'aussi flou que les mouvements ésotériques, c'est pas toujours facile de trouver le vocabulaire commun avec les personnes, puisqu'ils peuvent employer des mots dans un sens, ne serait-ce que le mot spirituel, on l'a évoqué dans les topos précédents. Le mot spirituel, c'est sûr qu'il n'a pas le même sens dans la bouche d'un chrétien et dans la bouche d'une personne qui adhère au courant, à tel ou tel courant New Age. Il peut y avoir le mot réincarnation, résurrection des morts aussi, ça peut être source de confusion. Et voilà. Bon. Alors, ce qui est important, c'est tout de même d'arriver à trouver un langage commun avec les personnes. Et là, dans ce passage, on voit Paul quand il dit, par exemple, « C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être ». C'est du vocabulaire de philosophe grec. Il s'adapte à son auditoire. Et il y a une subtile oscillation dans le discours de Paul entre une sorte de bienveillance à l'égard de son auditoire, c'est-à-dire quand il va leur dire « vous êtes les plus religieux des hommes ». Certains des vôtres ont dit des choses similaires, etc. Donc il essaye de trouver ce qu'il y a de bon dans ce qu'ils ont cru et ce qu'ils ont professé. Et en même temps, il met les points sur les i, c'est-à-dire Dieu fait savoir aux hommes d'avoir par tous et partout à se repentir, c'est-à-dire à faire un effort pour venir vers Dieu. C'est-à-dire que ça ne va pas leur tomber tout cuit dans le bec, il faut quand même que de leur part, il y ait un mouvement de conversion, c'est-à-dire de retour vers Dieu. Et le résultat de cette prédication assez admirable, il va jusqu'au bout, il parle de la résurrection des morts, et je pense qu'il est suffisamment cultivé et malin pour savoir que du point de vue d'un grec baigné dans la pensée platonicienne, le fait d'être dans un corps, c'est le fruit d'une chute, c'est le fruit d'une déchéance. Et donc, quand il leur parle de résurrection, que Dieu a ressuscité Jésus et qu'il lui a redonné un corps, il sait que c'est inaudible pour la plupart des Grecs. Mais il le dit quand même parce qu'il veut annoncer la foi intégrale. Effectivement, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que certaines des personnes se mettent à se moquer de lui, et les autres... Une partie désire l'entendre de nouveau. Et certains, à la fin, s'attachent à lui, mais seulement certains. Donc si ça peut vous rassurer, c'est pareil avec Jésus, quand il prêche, Jésus, il a des échecs de prédication, c'est-à-dire il y a des moments où les gens ne le suivent pas, ou s'en vont, ou voilà. Et c'est comme ça, quoi. Faut pas se décourager pour ça. ça peut vous rassurer encore, je vous ai mis un autre petit passage des Actes en dessous, deux chapitres plus loin. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. Bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie apportaient leurs livres et les brûlaient en présence de tous. C'est pour montrer que ça date pas d'hier, ces questions de magie et de pratiques de sorcellerie ou de choses incompatibles avec la foi, et qu'il faut pas désespérer, les personnes peuvent se convertir et venir. Voilà. Ça va, ce petit point sur Paul ? Alors après, je vous ai mis des textes du Concile Vatican II. Alors je ne sais pas du tout si je ne vous connais pas assez pour savoir si vous avez eu l'occasion d'étudier les textes de Vatican II ou de les lire tout simplement. Ça m'a semblé important de les mettre parce qu'en fait, quelque chose qu'on entend de plus en plus dans le discours ambiant, enfin qui ne date pas d'hier non plus, hein, c'est qu'à Vatican II, on a renoncé à l'idée de la plénitude de la vérité dans l'Église catholique. Et que depuis Vatican II, on serait entré dans une période où l'Église est devenue tolérante, puisqu'avant, forcément, elle était intolérante, méchante et totalitaire. Et que depuis Vatican II, c'est génial, parce que l'Église a reconnu que toutes les religions disaient la vérité. Bon. Alors, c'est un discours, j'ai pas assez étudié pour savoir si c'est la responsabilité des médias ou si c'est la responsabilité des pasteurs en France de certains pasteurs français, enfin... pasteurs au sens les évêques, les prêtres, etc. Je ne sais pas d'où vient ce discours-là, Toujours est-il que quand on prend les textes de Vatican II et qu'on les lit, tout simplement, bah, ce qu'on y trouve, c'est l'enseignement traditionnel de l'Église, avec une petite note, une petite touche quand même assez importante de différenciation. L'approche qui est proposée est beaucoup plus dans cette hésitation qu'il y a, dont je vous parlais avant, entre l'exclusivisme et l'inclusivisme. Le regard que propose le Concile Vatican II, c'est un regard en forme de cercle concentrique, si vous voulez. C'est-à-dire que la plénitude de la vérité est dans l'Église catholique, et après, il y a comme des cercles d'éloignement progressif de la plénitude de la vérité, avec les orthodoxes, les protestants, les juifs, et puis plus on s'éloigne de la révélation biblique, et plus on est loin de l'accès aux moyens du salut. Mais l'idée que la plénitude de la vérité est dans l'Église catholique subsiste, c'est le terme de technique dans les textes de Vatican II, subsiste dans sa plénitude dans l'Église catholique, elle est affirmée tout à fait clairement. Alors je vous propose de lire, on a un petit peu de temps, donc je vous propose de prendre le temps de lire ces textes qui parlent à la fois du rapport entre les chrétiens et les personnes qui appartiennent aux autres courants religieux, et à la fois qui parlent de mission et de méthode d'évangélisation. Alors, je vous lis tout d'abord les deux paragraphes de la Constitution dogmatique Lumen Gentium. Les non-chrétiens. Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu, et en premier lieu, ce peuple qui reçut les alliances et les promesses, dont le Christ est issu selon la chair. Il s'agit bien entendu des Juifs. Peuple très aimé du point de vue de l'élection, à cause des pères, car Dieu ne regrette rien de ses dons ni de son appel. Mais le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans qui, professant avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour. Donc là, mais plutôt l'accent sur les points communs avec l'islam, tout en mettant une petite note, ils professent avoir la foi d'Abraham. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la foi d'Abraham, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est la même foi. Et donc, là, on passe à ce qui nous intéresse plus directement pour l'ésotérisme, et même des autres, qui cherchent encore dans les ombres et sous des images un Dieu qu'ils ignorent, de cela même, Dieu n'est pas loin, puisque c'est lui qui donne à tous souffle, vie, souffle et toute chose. Et là, ça renvoie au passage des Actes des Apôtres qu'on vient de lire. Et puisqu'il veut, comme sauveur, amener tous les hommes au salut, c'est bien pour dire que l'Évangile, ça ne s'adresse pas à une catégorie précise de personnes, c'est-à-dire les enfants des familles catholiques, ça s'adresse à la totalité de l'humanité. En effet, ceux qui, sans qu'il y ait de leur faute, ignorent l'Évangile du Christ et de son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent sous l'influence de sa grâce d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, eux aussi peuvent arriver au salut éternel. Là aussi, petit commentaire, ça ne veut pas dire que tout le monde est sauvé. Ça veut dire que les personnes qui, d'un cœur sincère, cherchent Dieu avec assiduité, peuvent arriver au salut éternel. Mais là, le Concile ne se prononce pas sur les modalités de la manière dont ça se passe. Et précision qui vient ensuite, à ceux-là même qui, sans faute de leur part, ne sont pas encore parvenus à une connaissance expresse de Dieu, mais travaillent, non sans la grâce divine, à avoir une vie droite, la divine providence ne refuse pas les secours nécessaires à leur salut. En effet, tout ce qui chez eux peut se trouver de bon et de vrai, l'Église le considère comme une préparation évangélique et comme un don de celui qui illumine tout homme pour que finalement il ait la vie. Alors, ce terme de préparation évangélique, c'est à garder en tête, puisque ça veut dire que dans les religions et dans les courants religieux extérieurs à la foi chrétienne, il peut y avoir des choses qui sont des préparations à l'accueil de l'Évangile. Et comme, je ne sais pas si j'ai, je ne pense pas avoir beaucoup insisté là-dessus, mais il faut quand même prendre conscience qu'à l'heure actuelle, il y a, en France tout au moins, il y a très peu de personnes qui ont reçu une catéchèse de qualité, en fait. C'est-à-dire que là, je vous disais les chiffres au début, on est entre 2 et 3% de personnes qui pratiquent, qui vont à la messe tous les dimanches. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu une catéchèse très lacunaire, voire... peut-être pas à moi de dire que c'est hérétique, mais bon, j'ai entendu certaines choses... assez problématique quand même. Et en plus, on est dans une période historique où il y a deux générations qui ont soit complètement quitté l'Église, soit qui sont un pied dedans, un pied dehors, qui n'ont rien transmis ou quasiment rien à leurs enfants. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a tout un tas de personnes qui sont, du point de vue de leur rapport à la foi chrétienne, qu'ils ont quasiment dans la même situation que les païens à qui s'adresse Paul, quoi. C'est-à-dire qu'ils en connaissent. Et il y a quelque chose de pire dans la situation, c'est que Paul peut arriver en disant que c'est une nouveauté, que c'est quelque chose qui s'est passé récemment et qu'il peut annoncer comme une nouveauté. Là, pour l'évangélisation actuelle dans un pays comme la France, il faut arriver à franchir la barrière entre les hommes et entre les personnes à qui on s'adresse et leur vision de l'Église, la barrière bâtie par les médias et par le discours complètement odieux et calomnieux qui est tenu par les médias sur l'Église catholique. Et ça fait une barrière à franchir pour arriver à s'adresser à des personnes qui pourraient être... qui, par ailleurs, pourraient être prêtes à entendre ce qu'on a à dire, quoi. Et donc, quand on s'adresse à des personnes qui adhèrent de près ou de loin à des courants ésotériques, je pense qu'il faut se poser la question, enfin, avant de rentrer dans un rapport trop conflictuel ou trop incisif avec ces personnes, se dire que peut-être que tout simplement elles n'ont jamais eu l'occasion de discuter avec un catholique de leur vie, et qu'on est peut-être la première personne avec laquelle on pourrait parler sérieusement de Dieu et de Jésus, et qui est un petit peu informée sur le sujet. Parce que s'ils se sont basés sur la catéchèse des médias et sur deux, trois trucs entendus de loin par leur grand-mère, ou enfin, c'est pas une vraie catéchèse, quoi. On ne peut pas considérer qu'ils ont déjà une connaissance de la foi chrétienne. Alors, la suite. Bien souvent, malheureusement, les hommes trompés par le démon se sont égarés dans leur raisonnement. Ils ont délaissé le vrai Dieu pour des êtres de mensonge, servi la créature au lieu du Créateur. Petit commentaire aussi, trompé par le démon. Donc on est dans les textes de Vatican II, donc pareil, quand on entend dire Vatican II, on parle plus du diable, on parle plus d'enfer, etc., ben là, on parle du démon quand même. Donc c'est bien que les chrétiens continuent d'y croire. Ou bien, vivant et mourant sans Dieu dans ce monde, ils sont exposés aux extrémités du désespoir. C'est pourquoi l'Église, soucieuse de la gloire de Dieu et du salut de tous ses hommes, se souvenant du commandement du Seigneur, prêcher l'Évangile à toute créature, Marc 16, 16, met tout son soin à encourager et soutenir les missions. Et, petite remarque encore, le paragraphe sur les non-chrétiens, immédiatement, le paragraphe immédiatement après, c'est un paragraphe sur les missions. Donc c'est bien que l'Église est dans une dynamique missionnaire et veut annoncer l'Évangile aux personnes qui ne sont pas encore chrétiennes. En effet, tout comme il a été envoyé par le Père, le Fils lui-même a envoyé ses apôtres en disant « Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps. » Matthieu, chapitre 28, verset 18-20. Ce solennel commandement du Christ d'annoncer la vérité du salut, l'Église l'a reçu des apôtres pour en poursuivre l'accomplissement jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi elle fait sienne les paroles de l'apôtre « Malheur à moi si je ne prêchais pas l'Évangile ». Elle continue donc inlassablement à envoyer les héros de l'Évangile jusqu'à ce que les jeunes églises soient pleinement établies, en état de poursuivre elle aussi l'œuvre de l'évangélisation. L'Esprit-Saint la pousse à coopérer à la réalisation totale du dessein de Dieu qui a fait du Christ le principe du salut pour le monde tout entier. En prêchant l'Évangile, l'Église dispose ceux qui l'entendent à croire et à confesser la foi. Elle les prépare au baptême, les arrache à l'esclavage de l'erreur et les incorpore au Christ pour croître en lui par la charité jusqu'à ce que soit atteint la plénitude. Alors, là aussi, je me permets de commenter. En prêchant l'Évangile, qu'est-ce que fait l'Église ? Elle dispose ceux qui l'entendent à croire et confesser la foi, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils adhèrent à la foi chrétienne, et elle les prépare au baptême. Donc là aussi, l'idée que l'Église se contenterait d'une espèce de présence de charité au sens l'assistance aux démunis, et que ça suffirait pour, en termes de mission, qu'on a pu entendre aussi dans le prolongement de Vatican II, ben, c'est faux. La vraie conversion au christianisme, c'est la réception, c'est le baptême, et c'est après la vie sacramentelle, quoi. Et le texte de Vatican II insiste bien sur les différentes étapes, l'accueil de la foi, la réception du baptême. Arraché à l'esclavage de l'erreur, ça veut bien dire qu'il faut renoncer à ce qu'on a cru de faux au préalable, auparavant, et les incorporer au Christ pour croître en lui par la charité jusqu'à ce que soit atteinte la plénitude. Son activité a le résultat non seulement de ne pas se laisser perdre tout ce qu'il y a de germe de bien dans le cœur et la pensée des hommes, ou de leur rite propre et de leur culture. Donc là, ça veut dire qu'il y a des choses potentiellement intégrables dans l'Église, dans les rites et les cultures des autres peuples et des autres religions. Donc il faut un travail de discernement pour voir ce qui est intégrable ou pas. mais de les guérir, de le guérir, de l'élever, l'achever pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l'homme. À tout disciple du Christ incombe pour sa part la charge et l'expansion de la foi. Et donc ce texte-là, je pense, on peut l'appliquer totalement à la question des mouvements ésotériques, et ça appelle un travail de discernement justement sur ce qu'il y a de potentiellement vrai, ce qui pourrait venir de la foi chrétienne, ce qui en est totalement extérieur, ce qui est totalement incompatible et ce qui est potentiellement acceptable. Et donc, pour finir, petit extrait de la déclaration Nostra Aetate, qui porte donc sur les relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui, quoiqu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, elle annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Donc à nouveau, là, l'affirmation de la vérité pleine et entière dans l'Église catholique par le Christ, dans lequel tous les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu s'est réconcilié toutes choses. Elle exhorte donc ses fils pour qu'avec prudence et charité, par le dialogue et la collaboration avec les adeptes d'autres religions, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socioculturelles qui se trouvent en eux. Voilà pour les textes que je proposais à votre lecture. Et alors je vous propose de terminer. Oui, un peu de temps. De terminer avec une approche un petit peu plus concrète. Bon, alors, moi, vous aurez compris que la perspective que j'ai adoptée pour ce travail, entre guillemets, d'évangélisation, c'est l'approche historique, dans l'espoir qu'en montrant d'où ça vient historiquement et en faisant sentir aux gens les provenances de ce à quoi ils adhéraient, ça les ferait réfléchir sur là où se trouve justement la plénitude et la source de ce qu'ils cherchent. Mais dans le quotidien, bon, vous n'êtes pas tous appelés à faire des études historiques sur les courants ésotériques, je ne vous le souhaite pas. Et donc du coup, au quotidien, la plupart des relations qu'on va avoir de ce type-là, c'est plus avec une personne qu'on rencontre ou qu'on connaît et qui va se trouver appartenir à tel ou tel groupe ou pratiquer telle ou telle chose. Et donc, je vous propose quelques éléments, alors sans prétendre du tout avoir de grandes révélations à faire sur ces thèmes-là, quelques petites pistes de réflexion que j'ai eues moi-même sur ces sujets. Je pense que ce qui est important, bon, je vous en ai déjà parlé un petit peu avant, mais ce qui est important, c'est de voir d'où vient la personne, entre guillemets, où elle en est de sa connaissance de la foi chrétienne. C'est deux choses différentes, d'avoir affaire à une personne qui est en train de quitter l'Église, et il y a des courants religieux qui sont des voies de sortie de la foi chrétienne. Ça, c'est, j'avais demandé qu'on propose le livre de Guillaume Cuchet sur le spiritisme, parce que l'une des manières qu'il a d'expliquer le succès du spiritisme, c'est qu'en fait, les personnes ne peuvent pas quitter, celles qui ont été catholiques par leur milieu familial, etc., c'est très difficile de quitter l'Église d'un seul pas, quoi. Parce qu'il y a toute une vie sociale, toute une vie aussi, toute une vie religieuse qui porte, et qui maintient, qui donne un sens à la vie. Et il y a un certain nombre de courants religieux qui sont des voies de sortie de l'Église. Et le spiritisme, très clairement, quand on regarde comment ça s'est passé historiquement, pour un certain nombre de gens, ça a été une porte de sortie de l'Église. Et quand on s'adresse à une personne qui est en train de sortir de l'Église, on n'a pas besoin de lui réannoncer la foi, puisqu'en fait, elle le sait déjà, enfin, elle sait déjà un certain nombre de choses. Et ce qu'il va falloir essayer de discerner, c'est pour quelle raison elle est en train de partir. Qu'est-ce qui bloque ? Est-ce que c'est... je ne sais pas, une inimitié qu'il y a eu avec un prêtre ou un événement qui s'est passé, ou est-ce que c'est pour une autre raison qui peut arriver aussi fréquemment, à l'heure actuelle ça se produit quand même assez fréquemment, qui est que sa vie morale et sa vie familiale, par exemple, n'est plus compatible avec ce que demande l'Église et que c'est plus tenable, donc elle cherche une porte de sortie qui lui permet de sortir la tête haute d'une certaine manière en donnant l'impression d'avoir dépassé la rigidité de la foi catholique, etc. Bon, une personne de ce type-là, on va lui parler de façon totalement différente d'une personne qui ne connaît rien du tout ou quasiment rien à la foi chrétienne et qui, elle, aurait plutôt besoin d'une porte d'entrée. Et potentiellement, le même courant religieux peut servir de porte d'entrée. Et par le spiritisme, c'est ça qui est assez troublant, en fait, par le spiritisme, il y a eu des cas de conversion au catholicisme après un premier pas dans le spiritisme. Donc c'est assez déstabilisant pour nous, parce qu'on se dit comment est-ce possible que un truc aussi, pour ceux qui n'étaient pas là au cours précédent, c'est les gens qui se mettent autour de table et qui essayent de convoquer des esprits à travers des médiums et avoir des communications avec les défunts. Et pour un certain nombre de personnes qui avaient grandi dans une ambiance anticléricale, hostile à la foi en général, aux conceptions surnaturelles en général, bah, le spiritisme, c'était suffisamment pratique et scientifique pour leur faire un sas de passage pour être capable après d'entendre des vérités plus profondes sur la foi. Alors c'est déstabilisant, mais c'est comme ça. Et quand on voit l'engouement actuel pour la méditation, pour une espèce de bouddhisme occidentalisé, etc., un certain nombre de personnes, c'est leur porte d'entrée dans la vie spirituelle, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autres propositions religieuses qui leur aient faites concrètement dans leur vie de tous les jours qu'une copine qu'elle a rencontrée à la crèche et qui lui a dit « Ah ben tiens, moi je vais au cours de yoga, pourquoi tu ne viendrais pas? Ça fait du bien, etc. » Et voilà, et elle n'a pas eu l'occasion dans sa vie de rencontrer de catholiques, elle n'a pas eu l'occasion de faire une retraite dans un monastère de dominicains, et la première proposition religieuse un peu concrète qui lui est faite, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ça fait un sas d'entrée dans la vie, et ça marche. Les arts martiaux peuvent marcher comme ça aussi, puis il y a une petite dimension spirituelle. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que c'est important, quand on a une personne en face de nous, d'essayer de discerner si c'est une personne qui est en train de sortir de l'Église ou si c'est une personne qui est en train, potentiellement, parce qu'après on ne sait pas ce qu'elle a en elle, mais potentiellement qui peut y rentrer. Alors après, toujours appuyé sur le discours de Paul, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas poser les choses en termes de rivalité, comme si c'était un jeu, même si concrètement ça se passe comme ça en fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une concurrence religieuse qui se joue. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps pour vous parler des racines historiques, pour vous montrer comment ça s'est déployé dans le temps. Il y a un livre qui a eu pas mal de succès l'année passée qui s'appelle Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Il y a eu un effondrement de l'appartenance à l'Église, à la pratique catholique dans les années 60. Mais moi, de mon point de vue, c'est très très clair, ça coïncide exactement avec l'engouement pour une espèce de spiritualité orientale qui a été portée justement par les courants ésotériques dont je vous ai parlé. Et la stratégie, même s'il n'y a pas de plan maléfique, en tout cas au niveau humain, la stratégie de des courants depuis le 19e siècle, c'était de jouer sur la concurrence sur tous les niveaux possibles et imaginables, à la fois au niveau surnaturel, à la fois au niveau rationnel, quoi. En présentant les choses aux gens comme, ce que je vous ai expliqué avec René Guénon ou avec d'autres penseurs, en présentant les choses aux gens comme si c'était un dépassement de la religion sclérosée à laquelle ils appartenaient par tradition. Et donc, je pense que c'est important d'être capable de dire que la foi chrétienne est au-delà de ce qu'ils peuvent recevoir dans ces courants. Et là, c'est très important, je pense, d'être bien au clair sur un dogme qui n'est pas beaucoup prêché. Alors là, vous avez eu la chance d'entendre parler ces 2 derniers jours, mais quand on va dans les messes habituelles, ordinaires, c'est assez rarement quand même qu'il est question de la Trinité et qu'il est question de Dieu-Trinité. C'est pas souvent prêché de façon un peu consistante, quoi. Or, c'est précisément ce point de doctrine qui est quand même le cœur enfin, l'un des cœurs de notre foi, l'incarnation et la Trinité, c'est précisément sur ce point-là qu'on voit le mieux la faiblesse de ces doctrines qu'on trouve dans cette espèce de vivier ésotérique. C'est-à-dire que l'idée un peu flottante on en a déjà parlé plein de fois, mais bon, je dis pour les gens qui n'étaient pas là au sens d'avant, l'idée un peu flottante de cette vie spirituelle qui consisterait à se dissoudre son ego pour être réintégré dans le grand absolu, dans le grand tout, ça va bien 2 minutes, ça va bien pour dire, bon, j'ai des soucis, donc j'essaye de me détacher de mes soucis, j'ai une douleur au pied, donc par le travail du bouddhisme, je me détache de ma douleur au pied, etc. Bon, d'accord. Mais dans le concret de la vie spirituelle réelle, ça ne résout pas du tout la question, comment il peut y avoir une relation entre moi et Dieu? Si Dieu, c'est une espèce de masse impersonnelle, une totalité dans laquelle je suis appelé à me dissoudre, à me résorber. Et dans la foi chrétienne, la doctrine de la Trinité, ça rend compte de cette réalité très complexe de la coexistence d'un Dieu infini et de créatures limitées. C'est précisément parce que Dieu est communion de personnes et Trinité qu'il peut appeler à la vie des êtres innombrables, en quantité dont on n'a même pas idée, en fait, des foules de créatures, et de les unir, de les rendre participants de sa vie divine. Et ça, c'est quand même un point de doctrine qui, enfin, qui est vertigineux, quoi, quand on prend le temps de le méditer, de le contempler, et qui est la réponse par excellence à cette espèce de spiritualité un petit peu flottante. Et ce qui est doublement significatif et fort quand on présente les choses sous cet angle-là, c'est que Dieu s'est fait l'un d'entre nous, Dieu a pris la condition humaine, et donc comme preuve de son amour, il est mort sur la croix pour nous, et comme preuve de cet amour et comme preuve de cette volonté de nous attirer à lui, je ne pense pas qu'on puisse faire plus, quoi. Voilà, donc je vous invite à garder ça en tête. Je pense vraiment que quand on rentre dans des débats un petit peu plus approfondis sur la réalité de la vie spirituelle, au-delà des questions de morale ou de est-ce que l'Église est gentille ou méchante, ou est-ce que les prêtres sont purs ou pas purs, etc., c'est quand on rentre vraiment dans la réalité de la vie spirituelle, c'est ce petit point de doctrine qui est absolument essentiel, qui permet de répondre aux critiques parfois très déstabilisantes justement de cette espèce de magma du New Age. Alors, par ailleurs, alors j'en profite pour faire un peu de pub parce que je pense vraiment que c'est un livre admirable. C'est une personne qui est passée de la méditation transcendantale à une conversion au catholicisme qui s'appelle le père Verlinde. Je vous ai mis dans le dossier les quatre dernières pages, c'est deux petits entretiens du père Verlinde pour la revue L'Invisible, qui donne un peu l'essentiel de sa pensée. Et si ce que je vous ai raconté vous intéresse, je vous conseille vraiment de vous procurer ce livre ou de le lire, L'expérience interdite. C'est une personne qui a vraiment, du coup, un prêtre qui a vraiment approfondi ces questions-là et qui propose des réponses, enfin, une manière de dialoguer et des réponses aux défis lancés par le New Age et par l'ésotérisme en général qui est vraiment brillant, quoi. Donc vraiment un livre, il a été réédité récemment en plus, donc il se trouve facilement. Et je vous recommande vivement sa lecture. Et tant qu'on est dans la publicité, si vous voulez un petit exemple de dialogue entre un catholique et une personne appartenant à cette spiritualité un petit peu flottante actuelle, il y a ce petit livre Qu'est-ce que la vérité? Un dialogue entre Fabrice Hadjadj et Fabrice Midal. Donc Fabrice Midal, c'est un des porteurs actuels de la méditation pour tous et de la spiritualité un petit peu. Oui, c'est pas la manif, là, c'est le mariage. Voilà, de cette spiritualité un petit peu flottante, qui ne se revendique d'appartenir, qui revendique de n'appartenir à aucune religion précise. C'est quelqu'un de très cultivé, Fabrice Midal, et Fabrice Hadjadj aussi, donc du coup ça donne un débat assez serré, et je trouve que c'est un bon exemple qui montre à la fois la méthode, la manière dont un catholique peut argumenter, et à la fois aussi la difficulté de cette argumentation, parce qu'on voit les réponses en face qui sont déstabilisantes, en fait. Il dit, mais quand on est dans la... Voilà, dans le flou des religions, la confusion des religions, c'est compliqué parfois de répondre. Alors, après, dernier petit conseil peut-être, ce qui attire beaucoup tout ce qui gravite autour de la spiritualité alternative, du New Age, etc., bien souvent, ce que disent les gens qui vont vers ces courants-là, c'est « mais au moins là, c'est concret, on fait des choses avec notre corps, il y a quelque chose d'incarné, c'est des pratiques... et puis, en plus, ça parle de nos problèmes réels, c'est-à-dire, effectivement, dans le néo-bouddhisme proposé aux Occidentaux, c'est en gros des solutions concrètes pour vos misères de la vie, quoi. La méditation pour les douleurs corporelles, la méditation pour les problèmes sentimentaux, etc. Enfin, il y a tout un tas de réponses à des problèmes assez concrets. Et ce qui est tragique là-dedans, c'est que les personnes qui disent ça, souvent, ne connaissent pas l'immense panel de propositions qui sont faites aux catholiques, justement, dans ces différents domaines. Pour ce qui est de la pratique de la méditation, de la pratique de je sais pas, une pratique concrète et incarnée de prière, il y a des propositions d'écoles d'oraison qui sont faites. Les Carmes à Bordeaux, par exemple, proposent ça, où vous êtes accompagné par une personne qui vous apprend comment faire une prière d'oraison, une bonne prière d'oraison. Et vous êtes accompagné comme ça. Le rapport du maître à disciple, ben quand même, la tradition catholique, il y a cette tradition de l'accompagnement spirituel. Il y a des ordres religieux qui sont spécialisés dans cette pratique de l'accompagnement spirituel. Alors, les carmes en font partie, mais les dominicains font un petit peu ça aussi. Ben, il y a cette possibilité de relation. Et tout simplement, même sans aller jusqu'à l'accompagnement spirituel un peu serré, la pratique de la confession régulière. La confession, quand on vit les choses comme « Mon Dieu, l'Église m'oblige à aller m'accuser de mes fautes, qu'est-ce que c'est barbare, etc. » Mais la confession, c'est l'occasion d'avoir une personne en vis-à-vis qui a une expérience de la vie spirituelle profonde. Les prêtres, ils passent leur temps à recevoir des gens qui leur parlent de leurs problèmes familiaux, de leurs problèmes spirituels, de leurs problèmes de travail, etc. Il y a toute une sagesse humaine dans la pratique, dans cette pratique, qui, en plus du sacrement, qui est quand même pas rien, c'est Dieu qui vous accorde son pardon par le ministère d'un prêtre, en plus de ça, il y a cet accompagnement, si on est vraiment suivi par une personne régulièrement, il y a ce suivi qui permet à la personne de vous guider, de guider dans des choix. Et donc, une des pistes qui peut être donnée quand vous êtes confronté à des personnes qui vous disent « Oui, mais vous, chez les catholiques, moi j'ai un maître, au moins mon maître, il me dit, ou mon coach, il me dit ce qu'il faut faire, etc. » Il dit « Mais faites-vous accompagner par quelqu'un, confessez-vous régulièrement au même prêtre, etc. » Et vous aurez cet accompagnement. Enfin, ça, c'est pour vous dire qu'il y a des réponses à ce que les gens cherchent dans ces courants-là. Il y a des choses qui existent. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point ce conseil peut porter des fruits, mais n'hésitez pas à orienter les gens aussi vers des retraites prêchées ou vers des choses ou des sessions particulières où ils vont se trouver un petit peu en dehors de leur monde quotidien, parce que la force justement de ces propositions ésotériques qui sont faites, c'est que ça arrive très bien à se greffer dans la vie quotidienne. Le petit cours de yoga, moi à la fac où je travaille, il y a un cours de yoga entre midi et deux pour les personnels, donc le personnel d'université laïque, anti-religieuse, etc. Ils peuvent aller faire leur petit cours de yoga entre midi et deux. Bon. Les personnes qui seraient tentées par ce genre de choses, ce qui leur manque parfois, c'est la découverte de vraiment d'une espèce de vie chrétienne vraiment enracinée et ancrée. Et ça, c'est bien souvent beaucoup plus dans les monastères qu'on peut le trouver ou dans des lieux de retraite que dans une église paroissiale. Alors quand on est dans une grande ville comme Bordeaux ou à Paris ou je sais pas où, on trouve très facilement des belles messes avec une belle liturgie, etc. Il y a des endroits où c'est très difficile quand même d'avoir accès à des célébrations quand on n'a pas la foi ancrée dans le... En soi, c'est plus difficile de rentrer dans le mystère. Et donc, il faut des petits moments comme ça, des petits temps forts où les personnes découvrent la beauté de la liturgie et la beauté que peut revêtir le christianisme. Et qu'ils sentent aussi un petit peu le mystère qu'il y a derrière. Parce que c'est beaucoup plus facile de sentir cette puissance du mystère et de l'Eucharistie, quoi, dans un cadre avec des chants grégoriens ou avec des chants, des beaux chants, etc., que des beaux habits, que dans une messe paroissiale dans un village au fin fond de nulle part, même si il peut y avoir par ailleurs des messes magnifiques. Voilà. Et dernier petit conseil, alors, c'est la promotion, parce que ma marraine a lancé ça à Bordeaux depuis des années, et ça tourne assez mal, mais l'idée est absolument géniale, c'est... Les personnes qui sont dans tout ce qui gravitent dans tous ces milieux de l'ésotérisme, etc., ont un goût pour le symbolisme en général et pour les choses un petit peu mystérieuses, inexpliquées, et attendent des explications sur les choses un peu mystérieuses, inexpliquées, etc. Or, il y a un lieu dans chaque ville qui est bardé de choses inexpliquées, mystérieuses pour la plupart des gens. Ça s'appelle une église. C'est-à-dire que les vitraux, personne n'y comprend plus rien. Les symboles chrétiens un peu partout, personne n'y comprend plus rien. Il y a des personnes qui rentrent dans une église et qui disent « C'est qui cette dame sur la statue, là ?» c'est la Vierge Marie. « Ah bon, bah d'accord. » Enfin, il y a quand même une ignorance à l'heure actuelle religieuse en France qui est énorme, quoi. Et l'une des idées, l'un des lieux d'évangélisation, à mon avis, privilégié, c'est tout simplement l'église. Parce que les gens qui seraient intimidés à l'idée d'aller assister à une messe spontanément... Il rentre très bien comme touriste dans une église. Mais un touriste, il n'est pas seulement touriste. Il a aussi sa vie spirituelle avec lui, il a sa vie familiale avec lui. Enfin, il n'est pas juste, même s'il y a un tropisme du touriste un peu bêta qui est prêt à absorber tout ce qu'on lui raconte, même ses pires bêtises. Mais enfin, c'est quand même une personne qui est susceptible d'écouter des choses qui vont au-delà du simple petit visite du guide du touriste, quoi. De l'office du tourisme. Et donc, si vous en avez la possibilité, si ça existe près de chez vous, il y a des associations qui existent comme ça un peu partout, des gens qui accueillent activement dans les églises en proposant le commentaire de l'église, tout simplement, avec un entremêlement de la dimension artistique et de la dimension spirituelle. Sans que ce soit tout de suite, à la sortie de l'église, on demande à la personne de se baptiser ou d'aller se confesser. Mais ça fait quelque chose qui montre que, vous voyez, vous cherchez du mystère, vous cherchez du symbolisme, etc., mais ce que vous croyez connaître, parce qu'en général, les gens sont persuadés de déjà tout savoir sur le christianisme, ce que vous pensez connaître, peut-être que vous ne le connaissez pas, et là, regardez tout ce qui se déploie autour de vous, c'est beau, c'est mystérieux pour vous, est-ce que vous ne voulez pas qu'on vous l'explique, et peut-être essayer de rentrer dans ce mystère-là avant d'aller voir dans le New Age, ou le yoga, ou le je ne sais quoi. Voilà, c'était le dernier petit conseil.